Frères et sœurs, le thème de notre message ce matin, c'est écouter Dieu. Écouter Dieu. Le sens ou la définition que je donne à ce thème, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Faire ce que Dieu nous demande de faire. Je m'excuse auprès de maman. Combien de fois on n'entend pas une maman qui dit « Tu ne m'écoutes pas ». Ce qu'elle veut dire à un enfant en criant, ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas entendu la maman. Lorsque la maman lui demandait de bien ranger ses jouets, mais c'est-à-dire que la maman veut dire tout simplement parce que les jouets sont toujours là, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire. Ce qui veut dire qu'on peut écouter quelqu'un sans vraiment le faire, ce que la personne demande de faire. Donc, écouter Dieu, dans la définition que je donne, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Et comme vous le savez, frères et sœurs, nous vivons dans le monde. Nous ne sommes pas encore au ciel. Au ciel, c'est très facile. Parce que tout est régi, tout est réglé, tout est soumis à l'autorité, à la volonté de Dieu. Et donc, à tous ceux qui sont au ciel, qui font ce que Dieu demande, ils font tout ce que Dieu demande de faire, ils n'ont aucun problème, aucun conflit, aucune contradiction. Leur style de vie, leur façon de vivre, ce qu'ils font correspond. Ils sont comme les soldats russes. Ils sont tous dans la même direction. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu le 14 juillet ou bien pendant l'époque des camarades. Les soldats, lorsqu'ils font des marches, tous sont sur le Champs-Élysées, tous sont tellement bien réglés, ils sont tous dans la même direction. Les mêmes pas. Faire ce que Dieu nous demande de faire dans le contexte existentiel où nous nous trouvons actuellement, parce que nous sommes encore dans le monde, nous met sans doute dans une situation de conflit par rapport à l'opinion dominante, à l'habitude dominante, à tout ce que les autres font autour de nous. Ce qu'il faut dire, que vivre d'une telle façon de faire ce que Dieu nous demande de faire, sans doute nous conduit à nous confronter, à nous mettre de temps en temps dans une situation de résistance, ce que s'appellerait résistance minoritaire. Parce que vous allez à l'encontre du courant, vous comporter différemment. Donc pour le faire, il faut vous mettre dans une situation de résistance. Et en plus des résistants minoritaires pour pouvoir plaire à Dieu plutôt que les hommes. Et il faut être vraiment bien armé pour confronter dans la vie quotidienne cette obéissance. Cette décision, cette volonté d'écouter Dieu plutôt que les hommes. Et ça ne peut pas être gratuit. C'est ce que j'appellerais le prix du non-conformisme. Il y a un prix. Tout cela ensuite, notre tempo c'est être structuré. En première partie, faire ce que Dieu nous demande de faire. Et en deuxième partie, la résistance minoritaire tirer le prix du non-conformisme. Faire ce que Dieu nous demande de faire. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Roi chapitre 12, versets 20 à 24. Et dans ce passage, nous allons voir que faire ce que Dieu nous demande à éviter la guerre. Nous demande de faire à éviter la guerre. Et je demande à Bruno de lire ce passage.
Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et il le fit roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes guéris, propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Et la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïa, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée.
Merci. Verset 24, quand nous venons le voir, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison. Vous imaginez le roi, Roboam, est confronté d'une situation de rébellion, de sécession. Son royaume, le royaume de son grand-père David, le royaume de son père, est maintenant, son royaume est maintenant réduit par rapport à ce qui a connu son père, son grand-père et son père, à seulement une tribu, deux tribus, Benjamin, hein, Juda et Benjamin. Donc, c'est très difficile pour un gouvernement quelconque d'accepter de perdre son territoire. Et même à l'heure actuelle, nous voyons, on nous craint ce qui se passe. Et il est tout à fait raisonnable, il est tout à fait normal pour ce roi de refuser la paix de son territoire, d'accepter, de refuser d'accepter cette rébellion. Évidemment, va en guerre, on pouvait entendre crier par les généraux. Et il a tout fait, il a rassemblé tous ses hommes de guerre. Tout est planifié, organisé. Ils étaient prêts à partir en guerre. Et même historiquement, même autour de notre époque contemporaine, autour de nous, vous voyez que chaque fois, quand je vous assure que les Corses ou le Breton, demain matin, décident de se céder, de quitter, de proclamer leur indépendance, le gouvernement de Paris ne va pas fermer les yeux. Hein. Pour les laisser partir, n'importe quel gouvernement ne laisse pas une partie de son peuple, une partie de son territoire, c'était quitter et devenir un pays sans réagir. Donc, tous les moyens ont été réunis pour aller attaquer, avant de le faire revenir, avant de réunifier son territoire. Vous vous imaginez? Tout était prêt. Mais l'intervention de Dieu a fait toute la différence. Et c'est très c'est extraordinaire de voir ce que Dieu dit. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères. Que chacun de vous retourne dans sa maison. Vous vous imaginez l'armée qui était déjà bien en état de combat, ils étaient prêts. Et je suis sûr que les autres nations alentour ont su cette histoire. Ce qui se passe dans le roi, face à roi Roboam, ce roi. Il est confronté maintenant d'un dilemme. Mais nous voyons la puissance, nous voyons l'obéissance, nous voyons sa volonté d'écouter Dieu. Et ils obéissent à la parole de l'Éternel. C'est vraiment un exemple très parlant d'écouter Dieu. La situation a justifié de partir en guerre. Tous les moyens ont été réunis. Mais tout d'un coup, il écoute Dieu. Dieu a parlé. Ne faites pas la guerre. Que chacun rentre chez soi contre vos frères. Ils ont obéi à Dieu. Et c'est très important de noter le point en compte de ce tableau. Quelqu'un peut nous provoquer. C'est une situation pour justifier notre réaction violente, notre attitude de partir, va-t-on en guerre, de réagir. Mais lorsqu'on se souvient de la parole de Dieu, lorsqu'on décide d'écouter Dieu, on se rend compte qu'on peut réagir autrement devant n'importe quelle situation. Écouter Dieu, c'est-à-dire faire ce que Dieu nous demande, nous amène obligatoirement à réagir différemment par rapport que normalement nous pouvons le faire. Et ce que les autres, même les autres, attendent de nous. Dans cet exemple de roi Boam, d'écouter Dieu est un très bon exemple pour nous. Il est confronté à une situation qui justifie sa réaction. Il était prêt, il avait les moyens, mais il a préféré d'écouter Dieu, de faire ce que Dieu lui demande au lieu de faire ce qui est humainement parlant semble assez justifié. La guerre a été évitée. Et frères et sœurs, lorsqu'on évite la guerre, lorsqu'on évite une guerre, c'est mieux. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui ont vécu 39-45. qui peuvent témoigner de ce qui est vivre sous une guerre. Mais nous savons que la guerre, ce n'est pas une bonne chose. Roi Boam a écouté Dieu, a mis en pratique le principe d'écouter Dieu, de faire ce que Dieu le demande. Et même si ça nous présente devant les autres comme une faiblesse, même si ça nous, par rapport à l'opinion des gens, on est un pas, c'est pas logique de ne pas taper lorsqu'on est tapé. Mais ce qui est important, c'est en tant qu'enfant de Dieu, notre priorité, c'est vraiment d'écouter Dieu. Et ça vaut plus que tout autre. Plus que tout. Dans ce cas, l'instruction de Dieu était tellement précise que chacun rentre chez lui. N'allez pas faire la guerre. Mais parfois, ce que le Seigneur nous demande de faire, peut-être n'est pas aussi précis, aussi direct, mais à ce moment-là, il nous faut appliquer le principe généraux de l'enseignement que la parole de Dieu nous donne. Parce que Dieu nous parle dans tous les domaines. Et dans cette situation présentée, ce cas précis, il a renvoyé le prophète. Mais nous avons dans nos mains la parole de Dieu. Et l'essentiel, c'est de lire, d'étudier et de garder la parole de Dieu dans nos cœurs pour pouvoir à chaque instant nous référer, nous épuiser, nous appuyer pour réagir conformément, nous permettant d'écouter Dieu. Je vous invite aussi à lire 2 Rois chapitre 5, 1 à 14. 2 Rois 5, 1 à 14. Et vous allez voir que écouter Dieu a permis à Naaman de bénéficier de la guérison. 2 Rois 5, 1 à 14. Yahai, tu peux le lire.
Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, fit de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire au Seigneur. Toutefois, cet homme fort et vaillant était l'époux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman et elle dit à sa maîtresse. Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son Seigneur, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Le roi de Syrie dit, vas-y, rentre à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange, et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman au serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? En effet, il s'apprête à moi afin que tu guérisses un homme de sa lèpre. Sachez-le donc que vous comprenez-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi et sois qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison. sa chair devint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur.
Maxi, écoutez, Dieu demande la foi et l'humilité. Pour Naaman d'entendre, va. Et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ce n'est pas ce qu'il attendait. Et c'était très simple. Et comme il dit, est-ce qu'il n'y avait pas de l'eau où il pouvait se laver? Chez lui. Dieu nous demande, Dieu nous parle, Dieu nous donne son instruction pour bénéficier de bénédictions qui suivent de telles paroles, de telles instructions. Il nous faut d'abord montrer l'humilité et foi pour entrer dans le plan, faire ce que Dieu nous demande, écouter Dieu. Un général de l'armée, un grand homme, lui demandait d'aller tout simplement se laver en Jourdain. Mais ce n'était pas intéressant. Il a fallu pour Naaman une certaine un changement dans sa tête. Pour nous aussi, frères et sœurs, dans notre relation, dans notre vie de chrétien, notre relation avec notre Père, il nous faut toujours l'humilité, il nous faut toujours la foi pour mettre en œuvre ce qu'il nous demande. Si Naaman finalement ne s'est pas montré humble, assez humble pour respecter cette instruction, il serait toujours dans sa maladie de lèpre. Mais à partir du moment où il a surmonté cet orgueil personnel, où il a surmonté cette barrière, ce manque de foi, on voit de résultat. Il a été guéri. Écoutez Dieu. Faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est très intéressant de voir que parfois, ce que Dieu nous demande de faire peut nous sembler difficile, mais finalement, lorsqu'on s'applique par la foi et dans la foi, par l'humilité, on récolte bien le résultat. Naaman peut témoigner. Il est maintenant guéri. Il est maintenant rétabli. C'est mieux qu'auparavant, n'est-ce pas, pour lui. Il a écouté, il a fait ce que le prophète, l'homme de Dieu, lui a demandé de faire. Je vous invite, frères et sœurs, aussi de lire, de regarder dans Jean 2, et je demande à mon écrivain de lire, le verset 1 à 11. Jean 2, 1 à 11.
Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit : femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur : faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur de repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » À Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus.
Merci. Faites ce qu'il vous dira. Frères et sœurs, notre message ce matin, c'est écouter Dieu. Écouter Dieu. C'est-à-dire, faites ce que Dieu nous demande de faire. Marie avait raison de dire. Le conseiller, faites ce qu'il vous dira. Elle avait elle avait la foi qu'en faisant ce que Jésus leur dira, on verra les choses. Le vin qui manquait, le problème sera résolu. Soyons attentifs à chaque temps pour écouter Dieu, pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Faites ce qu'il vous dira. Vous imaginez, au cours de fête de mariage, le vin manque. C'est un problème. Où aller chercher? Mais cette confiance était là dans le Seigneur. La mère l'homme, était sûre. Humainement parlant, remplir les pots avec de l'eau, ce n'était pas très logique. Mais avec Dieu, la logique de l'homme n'a pas de logique. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec et par les règles de logique humaine. Faites ce qu'il vous dira. Voilà ce qui compte pour chacun de nous. Ce qui doit compter pour chacun de nous. De faire ce que Dieu de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et cette attitude de faire ce que Dieu nous demande de faire dans la société actuelle, dans le monde actuel, ça va nous mettre, sans doute, parfois dans une situation conflictuelle. On peut même moquer de nous. On peut même nous considérer comme bizarres lorsqu'on refuse de faire comme tout le monde, lorsqu'on refuse de faire certaines choses que les autres font. Il faut la foi dans le Seigneur pour vivre dans ce monde aujourd'hui en faisant ce que Dieu nous demande de faire. Et pas ce que la société approuve. Et pas ce que tout le monde autour de nous le fait. Aller à contre-courant. C'est vrai, c'est pas facile. Mais la résistance minoritaire, le prix du non-conformisme, c'est ce que nous devons nous armer en tant que chrétiens de le faire. Frères et sœurs, je vous redis que écoutez, faites ce que Dieu nous demande de faire. Refuser de faire ce que fait tout le monde, même si c'est légal, c'est ça, hein? Même si c'est légal, ou bien de faire ce que tout le monde refuse de faire, c'est vraiment la résistance minoritaire. Et récemment, aux États-Unis, nous avons vu le 26 juin, une décision de la Cour suprême des États-Unis nous a donné un très bon exemple de cette résistance minoritaire. Ce jour-là, la Cour suprême, par 5 à 4, a décidé de généraliser, d'autoriser, d'accepter le mariage homme et femme, femme et femme à femme, ce qui est maintenant applicable dans tous les États des États-Unis. Parce qu'auparavant, il y avait 13 États où c'était possible. Mais maintenant, avec cette décision le 26 juin de la Cour suprême, partout dans tous les États des États-Unis, un homme peut se marier avec un homme, une femme peut se marier avec une femme. Mais ce qui est intéressant de voir dans cette affaire, dans cette décision, c'est que parmi les 9 juges, il y avait 4 qui ont refusé d'approuver cette décision. Mais comme ils ont 9, il y avait 5 qui ont approuvé. Et ces 4 juges nous montre vraiment un exemple parfait de la résistance minoritaire. Parce que l'homosexualité, le mariage entre hommes et femmes est devenu maintenant quelque chose d'acceptable. Même la France a même voté une loi. Même l'Irlande récemment, l'Angleterre. C'est une abomination. Une abomination. Selon la parole de Dieu. Et ces 4 juges ont montré le courage de dire non, de résister. Parce que un homme de se marier à un homme, une femme de se marier à une femme, c'est vraiment absolument contre la volonté de Dieu, contre ce que Dieu a prévu pour sa créature, comme nous, pour sa créature. Lorsqu'on est poussé un mur comme ça, lorsque tout le monde autour est d'accord, lorsque ça devient une norme dans la société, et en tant que chrétien, mettre nos pieds sur terre pour dire non, pour résister, ça nous coûte, ça c'est vrai. Ça va nous coûter, ça va nous attirer même des critiques. Oui, la résistance minoritaire ne peut pas être gratuite, mais il faut accepter de le confronter. 4 juges sur 9 ont refusé. Évidemment, ça a passé parce qu'il y avait 5. Ce qui est drôle, entre ces 5, il y avait 3 femmes. 3 femmes qui ont voté, qui ont approuvé cette décision. Et ça a passé. Une seule majorité. Maintenant, les évangéliques américains sont vraiment remontés. Prenons une autre situation concernant l'avortement. Récemment, il n'y a pas si longtemps, la société a célébré la loi Veil. Et en tant que chrétien, nous savons que l'avortement n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. En tant que jeune chrétien, lorsque vous refusez de pratiquer l'avortement, vous ne faites rien d'autre que la résistance minoritaire, parce que vous êtes minoritaire, parce que c'est la norme, la société a accepté, il y a une loi, mais convaincu de ce que Dieu, de plaire à Dieu, vous refusez de le faire, d'entrer dedans, de le pratiquer, c'est une bonne résistance minoritaire. Vous êtes minoritaire. Il est évident que pour les chrétiens, la solution est à la base, c'est-à-dire de respecter en tant que jeune chrétien, jeune fille chrétienne ou jeune homme chrétien, de garder son corps, de préserver son corps pour le mariage, pour son mari. Et par là, par cet respect primaire de ce que Dieu, c'est écouter Dieu dans cet aspect primaire, ça vous évite d'avoir à confronter ce soir. Et c'est pour cela, en dépit de quoi qu'on puisse penser, mettre, écouter Dieu nous aide à surmonter beaucoup de problèmes dans la vie. Il est évident que se marier avant le mariage n'est pas du tout ce que Dieu demande à ses enfants. Il est évident qu'en tant que chrétien, écouter Dieu nous permet de résister à cette tendance. La tendance de se mettre ensemble, de se marier avant d'être marié. Et il est important pour chacun de revenir à l'enseignement de base, au principe de ce que Dieu nous confie en tant que ses enfants. Écouter Dieu, faire ce que Dieu nous demande. C'est vrai, par rapport à la société, on n'est pas bien placé. Ce n'est pas ce qui se passe, ce qui se fait. On n'est même pas bien vu. Mais Dieu respecte, honore et bénit tes enfants qui l'écoutent. Et c'est très important. C'est pour ça que les apôtres nous ont laissé une conclusion très importante dans cette façon de vivre. La façon de vivre pour écouter Dieu, de faire ce que Dieu nous demande par rapport à ce que la société, à ce que les pratiques, à ce que l'opinion dominante nous demande. Par conséquent, je vous invite, frères et sœurs, de regarder pour conclusion Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. À partir du verset 5. Le livre des Actes, chapitre 4. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, avant que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue le principal, la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient la prédure en l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir de Sanhédrin et ils délibèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle, qu'un signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais avant que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons l'air avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils les défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Les apôtres étaient menacés. Ils étaient menacés, interdits. Mais la question, la réponse est très claire et nette. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Faire ce que Dieu nous demande de faire, par rapport même à l'interdiction, par rapport même vis-à-vis de toute opinion contraire. C'est ça notre désir de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Que Dieu nous aide par sa grâce à écouter, à faire ce que lui, Dieu, nous demande et qu'il nous donne la force dans la résistance minoritaire de confronter parfois le prix du non-conformisme. Merci.